affiché ici donc le texte que nous allons regarder ensemble. Donc, si vous avez une Bible entre les mains, vous pouvez chercher Genèse 32. Juste avant de commencer, j'aimerais juste encore dire combien nous sommes contents de vous retrouver ici à Figeac. Donc, c'est toujours une joie de revenir, de voir des visages connus et puis moins connus. Donc, c'est toujours bien de voir que le Seigneur amène d'autres personnes à se joindre à la communauté. Je vais commencer donc par la lecture. Je vais lire ces versets. C'est une histoire dans la vie de Jacob que nous allons méditer ce matin ensemble. Juste pour le contexte, puisqu'on ne peut pas tout lire, Jacob revient vers sa famille pour retrouver son frère Ésaü. Il a été 21 ans chez son oncle. Il revient avec deux femmes et 11 enfants. Et il a peur. Il a peur parce qu'il est parti brouillé avec son frère. Son frère était très en colère avec lui quand il est parti. Donc il ne sait pas comment il va être reçu. Et il y a cet incident, cet événement dans sa vie où le Seigneur va venir vers lui. Et nous allons donc lire Genèse 32 et je prends verset 23. Donc Jacob, dans la nuit avant de rencontrer Ésaü. Dans la nuit, il se leva, emmena ses deux femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa le gué de Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'individu. « Jacob, » répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. » Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Jacob l'interrogea, « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Le soleil se leva quand il passa le gué de Penuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse fixée à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Dans un texte un peu plus loin dans la Bible, Dieu se présente à Moïse et il lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors, on comprend tout de suite pourquoi il dit le Dieu d'Abraham. Abraham, le père des croyants. Donc, les histoires qui sont là dans la Genèse aussi, il y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés à Abraham. Il est question d'Isaac aussi. Sur Isaac, nous avons beaucoup moins de détails. Il y a très peu de choses sur la vie d'Isaac et même sur sa relation avec Dieu. Et puis Dieu dit, je suis aussi le Dieu de Jacob. Et c'est de ce Jacob que nous allons parler ce matin. Alors, dans un sens, on pourrait penser que cet incident, donc que je viens de vous lire, pourrait avoir un rapport avec la prière. Et c'est vrai qu'on peut faire des parallèles, mais ça va plus loin parce que c'est quelque chose qui va toucher à la racine de la relation de Jacob avec Dieu. Jacob va vivre cette nuit-là ce qu'on appellerait, nous, dans notre langage, une conversion. On lui change même son nom. C'est son chemin de Damas, si on compare à Saul de Tarse. Le Seigneur le rencontre et il en est changé. Et donc, dans ce texte, Nous sommes aussi devant la question de notre rapport à ce grand Dieu qui nous a appelés, qui nous a rachetés, qui nous a intégrés dans sa famille. Comment est-ce que je me positionne devant ce Dieu qui se dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il est qui pour moi, pour nous? Alors, il est vrai que ce récit a parfois servi d'illustration à des exhortations sur le thème « Luttons dans la prière comme Jacob a lutté pour vaincre comme Jacob a vaincu ». C'est vrai que c'est une histoire qui stimule l'imagination, hein. C'est assez mystérieux, hein, faut le dire, cette rencontre de Jacob. Mais on va essayer de dégager la véritable signification de cet événement pour l'homme Jacob. Jacob est dans la crainte, je l'ai dit. Il va retrouver ce frère avec lequel il s'est brouillé toutes ces années auparavant. Un peu plus haut dans le chapitre, et ça vous pouvez le regarder pour vous-même, il prie. Et dans sa prière, il rappelle les promesses de Dieu. Ça, c'est une belle prière. Parce que prier, c'est aussi dire au Seigneur, voilà, tu l'as dit, je le crois, et je te demande maintenant d'agir dans ma vie. Mais l'événement que nous allons méditer ensemble, ça va un peu plus loin. Et c'est vrai que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec l'histoire de vaincre comme Jacob a vaincu. Et on va essayer de voir quelle est la vraie victoire de Jacob. Parce que je ne pense pas que nous pouvons voir ici une lutte acharnée par laquelle Jacob va surmonter la résistance, entre guillemets, de Dieu. Dieu ne résiste pas à nos prières. C'est vrai que parfois, il dit non. Parfois, il dit attends. Mais il ne résiste pas. Il entend. Il écoute nos prières. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on puisse parler d'une bénédiction que Jacob va réussir à arracher à Dieu, parce que Dieu n'est pas réticent pour nous bénir. Donc on va essayer de nous adresser à toutes ces questions et nous allons tenter de voir ce qui se passe réellement. Les questions qui se posent, si Dieu est tout-puissant, et il l'est, si l'homme n'est que poussière, et c'est aussi une vérité, hein, comment se fait-il que Jacob n'ait pas été anéanti comme ça, quand il a lutté avec Dieu? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin d'estropier Jacob pour triompher de lui? Et puis, que s'est-il vraiment passé dans le cœur de Jacob dans cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Comment se fait-il qu'il a été changé comme il a été changé? Et nous allons bien sûr chercher les réponses dans le texte. Et la première chose que le texte nous dit, pratiquement la première chose, on va dire, qu'on peut souligner, c'est que Jacob n'est pas dans cette lutte, j'ai mis des guillemets, l'agresseur. Je veux dire, ce n'est pas Jacob qui a cherché cette confrontation. On pourrait dire qu'il cherchait peut-être à se rassurer, hein, devant le lendemain, devant cette rencontre qu'il attendait. Mais il n'a pas cherché une confrontation avec le Seigneur. Ce n'est pas lui qui en a pris l'initiative. Et ça doit éclairer notre compréhension de ce qui se passe ensuite. Si quelqu'un... Je vais rater une diapo. Alors, un homme se battit avec lui. C'est l'homme qui vient se battre avec lui. L'homme, entre guillemets, on ne sait pas encore au début de l'histoire qui c'est, son identité est révélée plus loin. Si quelqu'un vous donne un coup de poing, vous avez un choix. Vous pouvez rendre le coup, ou alors vous pouvez prendre vos jambes à votre cou. Et vous sauvez. Mais si quelqu'un vous attrape et lutte avec vous, eh bien que vous ayez envie de vous défendre, ou de partir, il faut lutter en retour. Quand on est attrapé, on est obligé de lutter. Donc, ce n'est pas Jacob qui a décidé comment les choses allaient se passer cette nuit-là. Et cet homme mystérieux, dans le début du texte, s'est saisi de lui. et il a résisté en luttant. Alors, le texte ne va pas très loin dans une explication de pourquoi Dieu a voulu à ce moment-là attraper Jacob et lutter avec lui. Mais ce qui me semble intéressant de retenir pour nous-mêmes, c'est que ici, le Tout-Puissant se met au niveau de Jacob pour travailler dans sa vie. Il lutte avec lui, mais au début, il lutte d'égal à égal. Ça a duré toute la nuit. Donc le Seigneur, au départ, a lutté avec lui d'égal à égal. Il s'est abaissé au niveau de Jacob pour travailler avec lui. Alors à la fin, c'est vrai, il va agir en puissance quand il intervient pour toucher Jacob dans sa chair, lorsqu'il devient clair que Jacob ne cédera pas. Et comme je l'ai dit en introduction, Jacob vit ici peut-être l'expérience la plus forte de toute sa vie. Je ne sais pas s'il a vécu autre chose d'aussi fort, je ne pense pas. Il va donc recevoir même un nouveau nom qui indique vraiment un changement d'identité. Et le Seigneur, je crois, voulait lui faire comprendre deux choses fondamentales. Il voulait lui faire comprendre l'état de son propre cœur et des véritables intentions que lui, le Seigneur, avait à son égard. Alors ce sont des choses que vous avez probablement déjà compris à un moment donné dans votre marche avec le Seigneur. Mais ce sont des choses qu'il faut aussi réapprendre, parce que les événements peuvent faire que nous oublions ce que nous avons bien compris sur l'état de notre cœur, qui est tellement tortueux, c'est la parole qui le dit. Et parfois aussi, les événements peuvent nous faire douter des véritables intentions de bien, de bénédiction que le Seigneur a à notre égard. Et donc, retenons déjà pour nous que le Seigneur veut que nous revenions toujours à ces deux vérités qui nous aident à garder la ligne dans notre marche avec lui. Je vous propose, en deuxième point, de dire que Jacob avait résisté jusque-là à la bonté de Dieu. Alors je vais expliquer ce que je veux dire. Mais en fait, toute sa vie, Jacob a lutté. C'était un lutteur dans l'âme, et y compris avec Dieu, ce Dieu qui pourtant avait décidé de le bénir et de l'aider. Avant de naître, Jacob était déjà lutteur. Alors sa mère Rebecca a eu une grossesse difficile et elle a reçu une promesse de l'Éternel. Je l'ai affiché là, donc Genèse 25-23. Il y a deux nations dans ton ventre et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Ça, avant même que les enfants naissent. Et si vous connaissez l'histoire, vous saurez que Jacob est né tenant le talon de son frère Ésaü. Ce qui me fait penser que Jacob était de ceux qui s'accrochent dans la vie pour avoir ce qu'ils veulent. Et vous êtes peut-être aussi de ce genre-là, nous pouvons tous l'être à un moment ou à un autre. Puis plus tard, lorsqu'il semblait que Isaac, le père, n'allait pas tenir compte de la prophétie que Rebecca avait entendue, nous avons cette histoire où Jacob et sa mère ne tiennent pas compte du fait que ce que Dieu a promis, il le donne. Et c'est par des ruses qu'ils vont essayer d'avoir cette bénédiction pour Jacob. Alors la promesse de Dieu leur a certainement donné l'impression que Jacob avait droit à la première place. Là, il n'y a pas de pas à tergiverser. Mais ils n'ont pas eu confiance en Dieu pour donner ce qu'il avait promis. Et de là, donc, nous avons, je ne reviendrai pas en détail sur cette histoire sordide de tromperie grossière où le vieux père aveugle se fait rouler dans la farine et Jacob se fait passer pour son frère avec cette peau de chèvre sur le cou et sur les bras et puis le plat qu'il a préparé. C'est aussi un rappel que Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne des coups de pouce. Quand il a promis, il a promis. Et il sait réaliser sa volonté. Et que parfois, on est tenté quand même de dire, bon, je sais que ça doit aller dans ce sens-là, alors je vais trouver une idée, je vais ruser pour arriver à mes fins. Ensuite, donc, Jacob a dû partir après cet incident. C'est là qu'Ésaü a eu envie, même, je pense, de meurtre, hein, à l'égard de son frère. Donc, Jacob est parti et en route pour le pays de son oncle, à Bethel, il s'est arrêté. Et là, il a eu une rencontre avec Dieu, une vraie rencontre où le Seigneur s'est révélé à lui. Mais vous pouvez aussi relire pour vous-même cet échange qu'il y a eu après la vision que Dieu lui avait donnée. Dans Genèse 28, à partir du verset 20, Jacob, il va dire à Dieu, « Alors, si tu fais ceci, et ceci encore, et encore cela, alors tu seras mon Dieu. » Alors, souvent, on passe sur ce passage sans nous arrêter, mais est-ce que c'est une façon de parler à Dieu ? Si tu fais ceci, et cela, et encore autre chose, ok, tu seras mon Dieu, je t'adorerai, hein, j'irai à l'église le dimanche, je mettrai mon offrande dans la boîte. Est-ce que c'est une façon de se positionner devant ce Dieu de la bénédiction dont nous nous approchons? Je crois que finalement, on voit que Jacob, là, n'était pas encore dans une bonne position devant Dieu. Alors ensuite, il y a toutes ces années chez Laban, son oncle. Alors ça, c'est Bethel. Et puis ensuite, chez Laban, Jacob a lutté encore. Il luttait durement. Alors Laban était, on peut dire, aussi rusé que Jacob. Donc ça a été des années de manœuvres, de tensions, de ruses de toutes sortes, de part et d'autre. Et donc on peut dire que finalement, en luttant durement, il a gagné ce que Dieu avait l'intention de lui donner. Il a eu une fortune, des troupeaux immenses. Il a eu donc ses deux femmes et ses 11 fils. Mais finalement, on pourrait penser que finalement, il a eu ce que Dieu aurait voulu lui donner, mais rien de plus. Et il est passé à côté de la paix, de la communion avec Dieu qu'Abraham avait connue. Le Seigneur lui aurait donné l'héritage, puisque c'était promis. Il lui aurait donné avec la paix. Mais Jacob, par son obstination, a lutté par ses propres moyens. Je peux y arriver. Je suis assez fort pour. Eh bien, il a mis 21 ans pour s'amasser, donc, cette fortune. Et 21 ans, comme j'ai dit, de manœuvre et d'angoisse. Est-ce que notre vie chrétienne ressemble parfois à une lutte? Alors, je ne vous demande pas de répondre à haute voix. Hein. Mais si elle est une lutte contre le péché en nous, contre les convoitises de notre nature charnelle, ça c'est normal. Et ça, il faut l'accepter. Nous sommes dans un combat et ce sera jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou qu'il nous reprenne. Hein. Il faudra combattre contre le mal, la tentation, notre ennemi, le diable. Mais si notre vie ressemble à une lutte pour arracher à Dieu quelques miettes de bénédiction, si notre vie ressemble à une lutte parce que nous avons l'impression que Dieu bénit les autres et nous oublie, eh bien là, nous faisons fausse route, parce que Dieu n'est pas comme ça. Et Jacob était un peu dans cet esprit-là, dans sa vie. On pourrait dire que Jacob semble avoir voulu la bénédiction du Seigneur, oui. Mais pendant longtemps, il a voulu cette bénédiction par intérêt personnel. C'est celui qui dit, si je marche avec Dieu, qu'est-ce que ça m'apportera? Et ça, c'est une façon de me mettre, moi, au centre, au lieu de mettre Dieu au centre et de dire, mais que veut-il me donner? Où veut-il m'amener? Que veut-il pour moi? Parce que si Dieu nous bénit vraiment, La parole ne nous promet pas que nous serons forcément plus riches matériellement. Si Dieu nous bénit vraiment, j'aurais besoin d'un petit verre d'eau, je crois, parce que j'ai un chat dans la gorge. Nous ne serons pas... Non, j'attends l'eau. Merci Pascal. C'est la chaleur du jour peut-être. Ah, bon. Ça devrait aller mieux. Si Dieu nous bénit vraiment, nous n'aurons pas forcément une santé parfaite non plus. Le Seigneur permet parfois que dans notre vie, il y a des difficultés même de santé. Personnellement, je porte des lunettes et j'ai dû accepter cela. Mais le Seigneur me bénit par ailleurs et je ne lui en veux pas d'avoir besoin de porter des lunettes. Nos ennuis ne disparaissent pas forcément parce que Dieu nous bénit. Et quand Dieu nous bénit, il nous faut encore payer nos impôts. Eh oui, mais si Dieu nous bénit vraiment, il fera de nous des disciples pour Jésus, des témoins pour l'Évangile, et des fils et des filles de Dieu qui n'ont d'autre désir que de ressembler à leur Père et de lui faire plaisir. Finalement, il faut qu'on accepte que c'est Dieu qui définit la bénédiction qu'il veut nous accorder. On ne peut rien lui dicter, parce qu'il sait mieux, de toute façon. Donc, il faut accepter cela et entrer dans ses plans. Le Seigneur, je crois, cherche à nous délivrer de cette mentalité qui était peut-être celle de Jacob à un moment donné dans sa vie. Une mentalité un peu de mendiant, ou on pourrait dire une mentalité de client, où c'est donnant-donnant, Seigneur, si je fais ceci, tu me donneras cela, et ça ne marche pas avec le Seigneur tel qu'il est. Il veut nous inculquer donc cette mentalité de fils et de filles, qui n'ont d'autre désir que de marcher dans les voies de Dieu, de leur Dieu qui bénit, et qui donne la paix et qui offre la communion. Persévérer dans la prière, donc, veut dire, sans doute, effectivement, chercher la face du Seigneur pour qu'il clarifie notre pensée. Jacob avait, comme j'ai dit dans ce chapitre, commencé comme ça, en ressortant les promesses de Dieu et en faisant une belle prière, mais ensuite, il est un peu... Le Seigneur a vu qu'il avait besoin d'autre chose. Mais oui, persévérer dans la prière pour que le Seigneur nous communique sa pensée et pour qu'il nous fasse comprendre ses désirs. Mais persévérer dans la prière, ce n'est pas vaincre une quelconque résistance de Dieu ou frapper à la porte du ciel comme si le Seigneur était sourd. Ce n'est pas imposer nos idées au Tout-Puissant. Et persévérer dans la prière veut dire prier par la foi. Et là, c'est là qu'on a besoin des promesses. Prier par la foi parce que Dieu a parlé, parce que Dieu nous a dit ce qu'il voulait pour nous. Mais c'est la foi qui nous permet d'aller au-delà des sentiments. Nous vivons dans une époque où on nous dit souvent, mais fais-le si tu le sens. Et le Seigneur, parfois, il dit, mais fais-le, même si tu ne le sens pas. Et c'est ça, la foi. La foi, prier par la foi, c'est déclarer par la foi que je sente la présence de Dieu, que je ne la sente pas aujourd'hui. Que j'ai l'impression qu'il m'entende ou que je n'ai pas cette impression en ce moment. La parole me dit que le Seigneur entend et qu'il répond. Et c'est sur cela que je veux compter. Et il faut lutter contre cette influence du monde qui nous dit, Ben, si tu ne le sens pas, hein, c'est traître. Hein. Persévérer dans la prière, donc oui, mais pas uniquement par les sentiments. Et puis, il faut quand même parler de la victoire de Jacob, qui est le thème donné. Et là, j'ai envie de dire donc que Jacob a vaincu, oui, mais dans sa faiblesse. Jacob a lutté avec Dieu pour se défendre, ça on l'a vu au début. Il n'était pas l'initiateur de cette lutte, c'est Dieu qui vient lutter. Pourtant, le récit dit bien qu'il a vaincu Jacob, qu'il l'a emporté quelque part. Il a reçu donc ce nouveau nom qui veut dire, alors ça peut vouloir dire Dieu lutte, mais aussi il lutte avec Dieu, donc les deux sens sont là. Dans quel sens peut-on dire que Jacob a vaincu ici, dans cette nuit? Et là, je reviens à ce que Dieu veut faire comprendre à Jacob à travers cette lutte. Je pense qu'il veut faire comprendre certaines vérités que Jacob n'a pas trop envie d'admettre encore. Il veut persuader Jacob qu'il ne lui veut pas de mal, au contraire, et que c'est par miséricorde qu'il l'arrête et qu'il lutte avec lui, qu'il vise son bien, mais que ça passe par ce moment d'arrêt, ce moment où le Seigneur, on va dire, le fait réfléchir toute la nuit, hein, sur sa relation avec son Seigneur. Si vous voyiez quelqu'un qui voulait se jeter par la fenêtre du 18e étage, que feriez-vous? J'espère que vous l'attraperiez pour lutter avec lui, pour l'empêcher de faire ce geste. Et on pourrait dire, c'est un peu comme ça que Dieu lutte avec Jacob aussi, pour dire, non mais ça peut plus, ça ne peut plus continuer comme ça, Jacob. Il faut qu'il y ait un changement, hein, une conversion dans ton cœur. Mais Jacob a peur. Il n'a jamais cédé à personne. Il va pas vouloir commencer ce jour-là. Et finalement, le Seigneur doit intervenir d'une façon plus forte. Le Seigneur va lui faire mal dans son corps. Il touche Jacob dans sa chair. Et c'est aussi vrai que parfois le Seigneur doit nous faire passer par des choses difficiles quand nous refusons de comprendre ce qu'il essaie de nous dire. On pourrait dire qu'il hausse le ton parfois, hein, qu'il parle plus fort, et ici il parle plus fort à travers ce geste, cette blessure, on peut dire, hein, pour Jacob. Et Jacob ne peut plus se servir que d'une seule jambe. Alors, je ne sais pas si vous avez fait de la lutte, mais les lutteurs unijambistes, ça n'existe pas. Lutter quand on n'a plus que l'appui d'une seule jambe, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire Jacob d'ailleurs? Eh bien, tout ce qu'il peut faire, c'est s'accrocher. S'accrocher ou tomber, évidemment, s'il lâche. Mais s'accrocher, il n'y a que ça s'il veut rester debout. Et c'est là que celui qu'il a pris peut-être pour un adversaire, puis puisqu'il est venu lutter avec lui, devient son seul espoir, son seul appui. Alors, ça me fait toujours penser à mon seul abri, c'est toi, mais ici c'est mon seul appui, c'est toi. C'est ça qu'il apprend en ce moment-là. Et là, donc, avec une seule jambe pour se tenir, accroché encore à celui qui est venu lutter avec lui, il entend « Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Si tu veux toujours ne compter que sur toi-même, ben Jacob, lâche-moi. » Et probablement pour la toute première fois, Jacob commence à comprendre les bienfaits de la dépendance. Parce que là, il est dépendant. Hein. Voilà, sur sa seule jambe, appuyé sur son adversaire, entre guillemets, il apprend la dépendance. Et en même temps, hein, à peu près en même temps, il me semble, il se rend compte qu'il est en présence du Dieu de ses pères, de ce grand Dieu qui a tout pouvoir et qui aurait pu l'anéantir, l'écraser d'un regard, mais qui est là et qui le tient et qui le soutient. C'est une belle image hein, de ce Dieu qui, dans notre faiblesse, nous tient et nous soutient. Et Jacob, alors c'est vrai qu'il était du genre tenace et parfois la ténacité, ça paye. Et ici, il va bien employer sa ténacité parce qu'il va dire « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Alors, pour bien comprendre ce qui se passe ici, parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent sur l'état du cœur de Jacob, il y a un petit texte dans le livre d'Osée, le prophète Osée, qui décrit cette lutte, hein, dans une forme un peu poétique, c'est dans le chapitre 12, mais Osée nous donne cet éclairage au moment où Jacob dit au Seigneur, je ne te laisserai pas partir, il pleura et le supplia. C'est dans cet état de cœur-là qu'est Jacob, quand il dit, je ne te laisserai pas partir. C'est pas, il ne craint pas en disant, je ne te laisserai pas partir, hein, je te tiens. Il dit, je ne te laisserai pas partir, et il pleure et il supplie le Seigneur, bénis-moi. Je me dis que peut-être tu avais attendu longtemps pour entendre ça dans la bouche de Jacob, d'entendre Jacob admettre son besoin de la bénédiction. Il aurait pu capituler plus tôt, sans doute. Mais bon, voilà, le Seigneur aussi est patient. Et pour nous, il n'est jamais trop tard, hein, tant qu'il y a la vie. Hein, le Seigneur intervient encore et encore. Je pense que le Seigneur aurait préféré que Jacob reconnaisse son besoin sans cette lutte terrible qui a duré apparemment longtemps. Mais enfin, plus important, c'est que Jacob a réussi à confesser sa propre impuissance et son besoin impératif de la compassion du Seigneur. Et donc Jacob a vaincu quand il a pu admettre sa faiblesse et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Bénis-moi, je m'accroche à ta bénédiction. Donc je reviens à ma question de est-ce que Dieu lutte parfois avec nous? Est-ce que nous avons parfois l'impression d'être malmenés dans la vie? Hein? Parfois il y a des événements qui interviennent, on ne comprend pas. On voit pas très bien pourquoi le Seigneur permet cela, hein, c'est une question qui vient parfois à l'esprit, quand nos appuis habituels se dérobent, parce que nous sommes tous trouvés des appuis dans la vie, hein. On s'appuie sur des proches, on s'appuie sur les frères, on s'appuie sur un tas de choses, mais est-ce que parfois ces appuis se dérobent et nous nous trouvons devant la question, mais Seigneur, pourquoi? Peut-être que nous disons parfois, c'est injuste. Peut-être, Seigneur, ne m'oublie pas. Si on est honnête, on doit peut-être reconnaître que souvent nous voulons encore nous débrouiller dans la vie. Nous sommes de grands débrouillards. C'est caractéristique de l'être humain, je me débrouille. Parce que nous savons ce que nous voulons. Alors, nous ne nous soucions pas toujours suffisamment de ce que Dieu veut. Et c'est vrai pour moi, je pense que je ne suis pas le seul, je pense que pour vous aussi parfois, c'est ce que je veux qui prend trop de place. Parce que nous voulons des choses honorables, hein, une vie tranquille, une vie professionnelle satisfaisante, de bonnes relations avec les autres, sans doute aussi une santé aussi bonne que possible. Et comme je dis, il y a des choses honorables que nous voulons, mais Dieu veut, en plus de tout le reste et en plus de tout ce qu'il nous donne, parce qu'il nous donne beaucoup, Dieu veut des disciples pour Jésus. Des témoins de l'évangile, des fils et des filles qui reflètent sa présence dans leur vie. Et c'est dans la faiblesse que sa présence se voit. Pas quand nous sommes assez forts pour faire nous-mêmes, là, on voit pas le Seigneur. Mais comme dans la vie de Paul, hein, c'est quand il a crié au Seigneur par rapport à une faiblesse dans son corps, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Et ça reste vrai, hein, pour moi, pour nous. C'est dans notre faiblesse que la gloire du Seigneur peut éclater. Donc, que nous puissions nous rappeler où Dieu veut en venir avec nous. Donc, je résume, je conclue. N'oublions jamais à qui nous avons affaire. On a un peu tendance aussi, parfois, à ramener Dieu à nos dimensions. Même parfois, dans nos prières, ou même dans certains chants que nous pouvons chanter, on oublie les dimensions de Dieu, combien il est grand, il n'y a pas plus grand que lui. Et puis, la prière n'est pas le moyen d'apprivoiser le Seigneur. Il n'a pas besoin d'être apprivoisé. Le Seigneur prend l'initiative, c'est lui qui nous invite à lui faire connaître nos besoins. Et c'est lui qui veut aussi mettre sur nos cœurs ce qui est important pour lui. Et ça, ça demande de passer du temps dans sa présence et d'écouter sa voix et de nous ressourcer dans sa parole. Donc, persévérons dans la recherche toujours de la pensée du Seigneur pour nous, pour les autres, pour notre témoignage, pour notre vie. Nous n'avons rien à lui apprendre. Nous avons tout à apprendre de lui. Et soyons heureux si Dieu se donne la peine de lutter encore avec nous pour rectifier notre vision des choses quand elle n'est pas juste. Je remercie le Seigneur qu'il lutte encore avec moi. Et le jour où il ne le fera plus, j'aurai vraiment, je crois, l'impression d'être sur la touche. Deuxième chose, donc, Jacob avait trop résisté à la bonté de Dieu. C'était un homme qui agissait, hein, c'était un homme actif, hein, qui savait mettre en œuvre ses projets. Mais il y a deux sortes d'activités possibles dans la vie chrétienne. Il y a ce que je fais parce que je compte sur Dieu, parce que j'ai la conviction que Dieu m'appelle à telle ou telle chose, à tel service, à telle action, à telle intervention, aller vers telle personne, donner mon aide aussi à telle autre. Il y a des activités qui découlent du fait que nous faisons confiance à Dieu et que nous acceptons d'aller dans le sens qu'il nous donne par son esprit. Et puis il y a des activités, une façon d'agir qui est plutôt signe d'un manque de foi parce que nous nous démenons pour arriver à nos fins, peut-être aussi en pensant « bon, si je suis assez fort, j'y arriverai, et même si le Seigneur ne m'appuie pas, j'y arriverai à mes fins ». Ça peut aller jusqu'à là parfois. Mais que le Seigneur, lui, il veut une activité motivée par la foi. Il y a donc une activité que la foi nous pousse à faire, et puis une forme d'activité qui est simplement de l'activisme et qui cache un manque de foi parce que nous n'avons pas pris le temps de nous demander ce que Dieu veut. Il ne suffit pas d'être actif dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie d'église, dans notre vie chrétienne. Il faut que notre activité soit fondée sur une conviction de ce que Dieu veut. Et puis, Jacob a vaincu dans la faiblesse. Tant que nous nous confierons dans notre astuce, dans nos ruses, tant que nous ne serons pas arrivés au bout de nous-mêmes, nous n'aurons pas la victoire. La victoire vient quand on capitule devant le Seigneur, qu'on reconnaît notre besoin de lui, notre dépendance, cette victoire n'est possible que dans la communion et l'échange permanent avec le Seigneur. C'est une vie qu'on vit, une vie de victoire avec le Seigneur. Et nous pouvons donc dire, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Mais le dire avec le bon esprit, comme Jacob, qui était dans la supplication, qui était dans le fait de dire, je n'ai pas d'autre appui que toi. Je pense que nous voulons la bénédiction de Dieu, en tout cas, généralement, parmi les chrétiens, nous voulons sa bénédiction. Mais il faut vouloir sa bénédiction, quelle qu'elle soit, parce que c'est lui qui définit comment il veut nous bénir. Donc, il faut essayer d'entrer aussi, toujours, dans le chemin que Dieu nous trace. Et quand nous voulons ce que Dieu veut, eh bien, il nous donne ce que notre cœur désire. Quand nous voulons ce que Dieu veut, il nous donne ce que notre cœur désire, puisque nos volontés se rejoignent. Que le Seigneur nous aide à marcher dans ses voies, à nous laisser travailler par lui, pour toujours mieux le connaître et mieux le servir. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce qui se manifeste dans le fait que tu travailles en nous. Ta parole nous dit que tu as commencé en nous une œuvre que tu mèneras jusqu'à l'achèvement. C'est une promesse que nous voulons saisir ce matin encore par la foi. Ce que tu as commencé, tu finiras. Ce que tu nous as déjà montré sera un fondement pour que tu construises encore dans nos cœurs une meilleure compréhension de ce que tu es, de ce que tu veux, de comment tu agis. Seigneur, aide-nous à rester dans l'humilité devant toi. Nous rappelons combien notre cœur est tortueux et cherche souvent à avoir sa propre volonté, à faire ce qu'il veut. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles, tu nous rappelles dans tes chemins, tu es le bon berger qui nous ramène quand nous nous égarons. Merci de lutter encore avec moi, avec nous. Seigneur, nous voulons vraiment ta bénédiction, mais aide-nous aussi à accepter que c'est toi qui décides quelle forme prendra cette bénédiction, aujourd'hui, demain, dans les jours à venir. Que nous puissions entrer pleinement dans ta bénédiction, avec joie, en acceptant aussi les inconvénients que cela peut nous apporter en tant que témoin, en tant que disciple, dans un monde qui ne veut pas te connaître, au milieu d'une société qui veut vivre sans penser à toi. Seigneur, tu nous as donné d'être des lumières pour ce monde et nous voulons entrer aussi dans cet appel, même si ça nous attire quelquefois des ennuis, des désagréments. Seigneur, merci parce que tu seras toujours là pour nous soutenir, pour nous tenir, pour nous faire avancer. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen.